Emmanuel Bove, un autre ami. Je préfère les jardins anglais aux jardins français. Ce n'est pas que l'ordre et l'harmonie me répugnent, ni que l'imitation de la nature m'enchante, c'est tout simplement que j'aime à ne pas savoir exactement où je suis. Les jardins anglais sont mystérieux. Il y a des cascades, des allées inconnues. Bien que l'on se retrouve vite à son point de départ, on a, pendant quelques instants, l'illusion délicieuse de se perdre. Et surtout, l'on ne traverse pas de grandes terrasses où tant de gens vous regardent. Par une chaude journée d'août, je me promenais dans le parc de Montsouris. Quoiqu'il fût midi, le soleil n'était pas au milieu du ciel. Je le voyais sans bouger la tête, seulement en levant les yeux. Les heures du matin sont les plus belles de la journée. Toutes les pensées, trop ambitieuses ou trop modestes du soir, ont quitté mon esprit. La nuit a fait de moi un être neuf. Midi est pour moi la limite extrême de la joie. Pourtant, ce jour-là, j'étais heureux. J'écoutais le chant des oiseaux. Je ne comprenais pas qu'il pût être si agréable à certaines oreilles. Il n'y avait rien dans ce gazouillis qui m'apporta quelque consolation. J'avançais tout doucement dans une allée ombragée. Je cherchais un banc à l'écart le plus au centre possible du parc, afin que, tout autour de moi, une égale profondeur d'arbres et de pelouses me séparât de la ville. Le ciel était bleu, l'air vibrait au soleil. Quelques insectes, qui n'avaient pas à redouter d'autres insectes plus forts, sautaient dans le gazon. De cette nature protégée ne jaillissait pas la vie intense, le bourdonnement des champs et des bois. Le sol que l'on foulait résonnait. Il n'amortissait point les pas comme la terre des campagnes. J'aime à donner du pain aux oiseaux. Je fais cela parce que c'est le signe d'une âme généreuse. Je suis d'autant plus alloué que rien ne m'attire vers eux. Comme à la plupart des gens, leur indépendance et leur grâce me sont chères, mais pas au point de trouver un contentement à leur lancer des miettes. Dès que j'eus trouvé le banc que je cherchais, je tirai de ma poche le morceau de pain que j'avais apporté. Il y avait déjà une douzaine d'oiseaux autour de moi quand je vis, à quelques mètres, un homme qui m'observait. Je ne dirai pas, comme certaines personnes, que j'avais senti son regard sur moi. Ce serait mentir, je n'ai jamais senti un regard sur moi. Mais je suis certain que ce jour-là, une femme dans la position où j'étais, voyant cet inconnu comme je le voyais, c'est-à-dire du coin de l'œil, sans tourner la tête, n'eût pas manqué d'affirmer qu'elle avait senti ce regard peser sur elle. Je n'en continuais pas moins à lancer des miettes. Je les lançais le plus près possible. On éprouve toujours une grande satisfaction à voir les oiseaux s'approcher de soi. La confiance qu'ils nous témoignent nous réjouit, et bien que l'on sache qu'il la témoigne à n'importe qui, on veut croire qu'ils ont deviné nos bons sentiments. Comme l'inconnu me regardait toujours, je parlais aux oiseaux. J'allais jusqu'à leur donner des petits noms. Mon désir était que l'un d'eux vînt prendre une miette au bout de mes doigts. Il eût semblé alors que ces oiseaux me connaissaient, que je venais souvent au jardin. Malheureusement, aucun ne s'approcha. Tout en paraissant prendre un grand intérêt à ce que je faisais, je ne cessais de penser à l'homme qui me regardait. Il devait se dire « Il y a de drôles de gens. Voilà un pauvre, un malheureux, qui partage avec ses oiseaux le peu qu'il possède. Il faut tout de même qu'il ait un grand cœur. Je n'ai jamais vu un pauvre faire cela. » Certainement, il se disait cela. J'avais conscience de ma grandeur. Comme il ne me restait plus qu'un petit morceau de pain, je le divisai en une grande quantité de miettes. L'inconnu fit quelques pas. Les oiseaux s'envolèrent. Je me tournai vers lui, humblement, avec un reproche sur le visage. « Ne m'en veuillez pas, monsieur, » dit-il d'une voix douce, « les oiseaux reviendront. » Alors seulement, j'osai détailler l'inconnu. C'était un homme âgé, de taille moyenne, bien vêtu. Il portait des lorgnons. Il était chaussé de ses bottines à tiges de caoutchouc que l'on peut mettre indifféremment aux deux pieds. Il me regardait avec tant de bonté que, durant une seconde, il me sembla que ses lorgnons étaient couverts de buée. « Vous venez souvent ici ? » Oui, monsieur. Pour la première fois de ma vie, je n'éprouvais aucune gêne de faire la connaissance de quelqu'un. J'étais dans une posture si sympathique que je pouvais, sans crainte, parler à n'importe qui. Vous aimez sans doute les bêtes ? Beaucoup. Je me levai et, machinalement, pour prendre une attitude, je lançai du pain dans l'herbe à l'endroit où s'étaient trouvés les oiseaux. « Vous avez une belle âme, » dit-il après un silence. Je ne répondis rien. Pourtant, ce n'était pas une phrase qui eût dû rester entre deux silences. On ne m'a jamais fait de compliment. On ne m'a jamais dit ce que d'autres entendent si souvent. Cette bonne parole m'emplit de joie. Je sentis même que, si j'avais voulu, j'eusse pu pleurer. Et je lançai toujours des miettes de plus en plus petites. Cet inconnu avait certainement une grande sensibilité. Il était gêné. Quand je le regardais, j'avais juste le temps de voir ses yeux, car il baissait la tête presque au même instant. « Tenez, » dit-il en désignant des oiseaux, pour que je ne le regardasse pas. « Ils vont revenir. » « Mais je n'ai plus de pain. » Ici, il faut que je me confesse. En disant « Mais je n'ai plus de pain », il y avait eu dans ma voix une intonation méchante. Tout le monde a ses faiblesses. On ne peut pas être parfait. J'avais dit « Mais je n'ai plus de pain », comme si je lui avais reproché de ne pas en avoir, comme s'il eût dû prévoir qu'il m'en manquerait, comme si je voulais qu'il m'en achetât pour que je continuasse à le donner. Heureusement, je suis intelligent. Je compris tout de suite ce qu'il y avait de mesquin dans ma pensée et je corrigeai cela en disant d'une voix naturelle « Les oiseaux en ont assez pour aujourd'hui. Vous croyez ?» L'inconnu était si bon qu'il n'avait pas même remarqué mon mouvement de mauvaise humeur. Nous nous éloignâmes. Il marchait lentement à son pas. C'était moi qui m'accordais à lui. De temps en temps, il s'arrêtait, regardait le ciel. Quelle journée ! Une joie immense m'envahissait, je sentais chez cet inconnu un grand amour pour les choses simples. Il s'intéressait à mille petits riens. C'était donc un homme comme moi. Celui qui me connaîtrait mal pourrait croire, au premier abord, que je suis difficile, que c'est ce qui fait mon malheur. Non, je ne demande qu'un peu d'amitié. Je sais que le signe d'une grande sagesse est de ne pas demander aux hommes plus qu'ils ne peuvent donner. Il faut les prendre tels qu'ils sont, je sais cela. Je suis un sage. Je ne demande qu'à les prendre tels qu'ils sont. Mais même cela m'est refusé. Je marchais près de l'inconnu d'un pas indécis, d'un pas prêt à accélérer ou à ralentir, de ce pas des filles qui viennent d'accoster un passant. J'entendais tous les bruits. Le jardin était presque désert. Parfois, de l'autre côté d'une pelouse, on voyait passer quelqu'un. L'inconnu, lui, marchait la tête baissée. Je l'observais. Nous ne savions pas où nous allions. Sur un banc, un malheureux mangeait un morceau de pain et un peu de charcuterie. On se demande toujours où peuvent dormir ces gens qui mangent dehors. L'inconnu le regarda avec pitié. « Oh, ne croyez pas que cela me rendit jaloux. Au contraire, ce fut pour moi une grande joie de voir que, sur la terre, il y a tout de même des hommes qui compatissent à la misère d'autrui. Non, je n'étais pas jaloux. Je ne suis pas jaloux des vrais mendiants, de ceux qui ne s'étonnent pas d'être pauvres, qui ne désirent rien, qui ne remarquent pas quand on a pitié d'eux. Cet homme qui mangeait sur le banc n'était pas un intrigant. » Il n'eut même pas avec l'inconnu un regard d'intelligence. C'était un pauvre, lui, un pauvre comme je les aime. Nous marchions toujours sans échanger un mot. C'est si doux de marcher près de quelqu'un de bien habillé, dont on ne connaît pas les pensées, qui, peut-être, changera notre vie, que l'on devine puissant. Cet inconnu, c'était presque un père pour moi. Dans sa démarche, dans son silence, je sentais une force protectrice. Même enfant, quand je sortais avec mon père, je n'avais pas éprouvé un tel sentiment de sécurité. J'avais toujours eu peur que quelqu'un ne le frappât. De temps en temps, l'inconnu se tournait vers moi, me dévisageait en hochant la tête. Et moi, imbécile, je ne savais pas comment le regarder. Avec douceur, c'eût été ridicule, puisqu'il était plus fort que moi. Avec froideur, indélicat. Avec soumission, sans dignité. Aussi évitai-je soigneusement son regard, que je devinais courir sur mes habits usés, sur mes souliers trop grands, et ce qui est si pénible, autour de mon cou. Nous approchions de la sortie du jardin. Dans quelques secondes, il allait falloir parler. Comme j'aurais voulu que nous fussions encore au centre du parc. Nous nous arrêtâmes. Il y avait, près de la grille, une guérite pour le garde, peinte du même jaune que les chaises de fer. C'était donc déjà fini. Nous allions nous séparer. J'eus un frisson. Heureusement que l'inconnu, à ce moment, ne me regarda pas. Il faisait chaud. En baissant les yeux, je sentis que mes paupières étaient humides. L'inconnu, bien que son visage fût couvert de sueur, ne s'épongeait pas. Cette distraction me plaisait. Je la mettais au compte d'une grande timidité, d'une grande sympathie pour moi. Pour la première fois depuis des années, j'eus l'impression qu'enfin j'avais un ami. L'inconnu tira un mouchoir de sa poche, un mouchoir qui n'avait pas encore été déplié, et, avant de s'éponger, me demanda « Où déjeunez-vous ? » « Je ne sais pas, monsieur. » J'avais senti qu'à cette question, il y aurait certainement eu une réponse m'avantageant à faire, mais j'ai l'esprit lent et je n'eus pas le temps de la trouver. « Voulez-vous venir déjeuner avec moi ?» Un déjeuner, c'est si peu de choses, c'est si vite fini. Pourtant, si vous saviez comme cette invitation me transporta de joie. Malheureusement, je n'ose jamais accepter ce que l'on m'offre. J'ai toujours peur d'accepter trop vite. Non, merci, je vous dérangerai, balbutiai-je. Allons, puisque je vous invite, venez. Je ne pensais ni à la chaleur, ni à ma pauvreté. Ma vie, je l'oubliais. Je vis le ciel bleu au-dessus de ma tête, le parc à droite, la rue à gauche. Tout cela était immense. Oh, monsieur, oui! Oui, j'avais dit oui. Si vous saviez comme il m'est difficile de dire oui. Je n'ai jamais dit oui. Je ne sais pas dire oui. Il me semble que oui, c'est la liberté, le bonheur. L'inconnu habitait à l'entresol. Est-ce d'avoir toujours vécu au dernier étage des maisons? Est-ce à cause d'un sentiment obscur? Mais je sens bien que, même si j'étais riche, je ne pourrais jamais habiter l'entresol. Arrivé sur le palier, l'inconnu, bien qu'il rentrât chez lui, ne chercha pas de clé dans sa poche. Il sonna. Une bonne, jeune et naïve, mais que l'on devinait têtue, ouvrit. « Entrez, mon ami !» me dit l'inconnu en désignant l'antichambre. J'obéis, mais sans essuyer mes pieds, à cause de la semelle qui eût pu s'accrocher au tapis. Je m'apprêtais à ôter mon chapeau lorsque l'inconnu me dit « Ne vous gênez pas, restez couvert, vous êtes chez vous. » Je pourrais dire ici que cette injonction m'humilia parce qu'elle ne visait sans doute que des gens comme moi, mais à quoi cela servirait-il ? Il y a tant de choses qui me froissent qu'il vaut mieux ne pas les relever toutes. Je me découvris quand même. Je fis deux pas en avant, regardai une bête empaillée et attendis. L'inconnu m'avait laissé dans le vestibule. Il revint quelques secondes après. « Allons, entrez dans la salle à manger. J'ai dit qu'on mette un couvert pour vous. » Je le suivis. « Asseyez-vous, vous êtes chez vous. » L'inconnu regarda mes mains, puis ajouta « Vous devez vous demander, cher ami, qui je suis. Je vais vous le dire. Je m'appelle Boudier Martel. J'aime ceux que la vie frappe de sa rigueur. J'avais deviné que, sous votre aspect timide, vous aviez une belle âme. C'est pour cela que j'ai tenu à vous connaître, à vous venir en aide, à vous encourager. Que votre fierté n'en souffre pas, car je pourrais être votre père. Vous avez en moi un ami. Chaque fois que je peux rendre moins pénible la vie de quelqu'un, je le fais. Vous, vous êtes digne que l'on s'intéresse à vous. » J'écoutais ces paroles comme si l'être parfait, auquel je pense si souvent, les prononçait. Je les écoutais sans chercher à les comprendre, parce que je craignais que certaines d'entre elles ne m'eussent déplu. Mon attention se posait une seconde sur les mots que j'aime, cher ami, venir en aide, fierté. Je ne pouvais pas croire que l'ami que je cherche depuis toujours fût là devant moi. Pourtant, il était là, et je sentis combien j'étais peu préparée à lui parler. Ne croyez pas, cher ami, que mon cœur soit sec. Je fais tout ce qu'il est en mon pouvoir pour rendre la vie moins dure aux malheureux. Je ne sais rien de plus grand que de se pencher sur la misère des humbles. » Ces paroles me berçaient. Il me semblait que la chaise sur laquelle j'étais assis n'avait pas de pied, que mes talons ne posaient plus sur le parquet, que je vivais dans un rêve. Une nouvelle vie allait commencer pour moi. J'avais un ami. Avec tous ses dons, avec son cœur, il venait à moi. « Ah, monsieur, comme tout ce que vous me dites me rend heureux !»« Vous savez, c'est ce que je pense. Allons, il faut déjeuner. Et puis, dimanche, j'irai vous voir, chez vous, dans votre petite chambre. C'est bien une petite chambre au sixième, comme je l'imagine ?»« Oui, monsieur. » »« Si vous saviez comme je vous connais, je vois toute votre vie. Vous vous levez quand vous vous éveillez, vous faites un petit tour, vous aimez les bêtes, vous allez déjeuner, vous flânez, vous dînez, vous vous couchez. Seul, vous êtes seul, tout à fait seul. Personne ne vous ennuie. Mais, au fait, de quoi vivez-vous ? De ma pension. Ah oui, vous avez une petite pension. Vous êtes heureux, vous êtes un sage, je vous admire. Ce déjeuner, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y eut, entre M. Bourdier-Martel et moi, une telle confiance, tant de délicates attentions, que j'ai peine à croire, aujourd'hui, que de tout cela, il ne reste rien. Le dimanche arriva enfin. M. Bourdier-Martel devait venir à 4 heures, après la grande chaleur. Je passai toute la matinée en préparatif. J'avais acheté du vin, une boîte de biscuits, de la limonade. Ma chambre en ordre était plus grande que d'habitude. Je m'étais assis sur mon lit, à l'endroit où il y a un grand trou dans le couvre-pied. J'attendais. La fenêtre était ouverte. Comme on ne peut pas utiliser le store, la lumière crue du dehors inondait la pièce. J'étais dans cet état de satisfaction où l'on se trouve quand on vient de terminer 1000 petits travaux faciles à oublier. Il n'y avait que les 2 verres que je n'avais pas encore lavés. Je le savais très bien. Je me réservais de le faire pour me donner une contenance quand M. Boudier arriverait. Soudain, j'entendis des pas dans l'escalier. C'était sûrement lui. Je me levai et pris les verres afin d'être en train de les laver quand il frapperait. Je l'entendis sur le palier. Bien que je lui eusse expliqué quelle était ma porte, il cherchait à l'autre bout du palier, là où demeure le coin. Comme j'eusse souhaité que mon voisin vit M. Boudier entrer chez moi. On frappa. J'allais ouvrir. C'était lui. Quoique ce fût dimanche, il avait mis, pour venir me voir, des vêtements usagés. Il avait certainement fait cela par délicatesse. Il entra, ôta son chapeau dès le seuil. « Vous voyez, dis-je, je suis en train de laver les verres. Asseyez-vous. » Et je lui tendis la plus belle chaise. « Oh, mon ami, ne vous occupez pas de moi, je m'assiérai n'importe où. » Il s'assit sur le lit, à la place où je m'étais assis, parce qu'à cet endroit, le matelas défoncé forme un creux. « Mais c'est très bien, cette chambre. C'est propre, vous avez de l'air. C'est un peu haut, mais vous avez de l'air. Vous trouvez ? Des chambres comme celle-là sont rares. » Cette admiration pour mon logis ne me plut pas. J'avais espéré qu'après l'avoir vu, il m'eût offert, chez lui, une grande pièce confortable. Maintenant, je comprenais que c'était inutile de compter sur cela. « Vous faites peut-être votre petite cuisine vous-même ?»« Oh non, monsieur !»« Vous ne la faites pas ?»« Non, je mange au restaurant. »« Vous mangez au restaurant ?»« Oui, monsieur. » « Mais c'est très cher, le restaurant. »« Oui, mais j'ai un arrangement. »« Ah, comme cela, c'est autre chose. Il faut, quand on est dans une situation comme la vôtre, savoir s'arranger. »« Je le sais bien, monsieur. » Il y eut un silence. le poing retourné, tout en regardant par la fenêtre, M. Boudier-Martel tâtait mon lit. Par moments, il levait le talon et frappait le dallage. Il se retournait aussi, regardait partout. Comme je cherchais un torchon, il dit « Non, n'essuyez pas les verres. Il ne faut pas vous mettre en frais. J'aime à boire dans des verres rincés à l'eau claire. Vous savez, ce n'est pas du tout si mal que cela ici. Vous avez sans doute l'eau, pas bien loin ?»«
Oui, il y a de l'eau sur le palier. »«
C'est très bien. L'autre jour, je n'ai pas pu vous parler comme j'aurais voulu le faire. Je vous connaissais à peine. Maintenant, je veux vous dire combien je trouve grand votre renoncement, votre simplicité. » Ces paroles, que je devinais pleines de vérité, m'émurent. Je regardais M. Boudier avec tendresse. Je sentais que ce qui nous séparait encore allait disparaître. « Voulez-vous boire un peu de vin, monsieur ?»«
Si vous voulez, mon enfant. »
« Mon enfant !» Il avait dit « mon enfant !» Cette fois, toute ma tristesse disparut. Je versai à boire en tremblant. Comme il voulait se lever pour prendre le verre, je dis « Non, non, ne vous dérangez pas !» Et je lui portai, non sans renverser un peu de vin. Il but, penché en avant, comme on boit au comptoir. Cela me parut indélicat. Il aurait dû, je crois, ne pas remarquer que j'avais trop empli le verre, car si je l'avais fait, c'était parce que ses bonnes paroles m'avaient troublé. Quitte à se mouiller, il aurait dû boire comme chez lui. « Mon ami, vous êtes insensible. » Une seconde, je crus qu'il lisait dans mon âme. « J'aime les gens comme vous. La misère humaine m'émeut. Racontez-moi votre vie. Si vous avez quelque chose sur le cœur, confiez-vous à moi. Racontez ma vie. Est-ce qu'une vie, cela se raconte à un ami? Peut-on raconter sa vie sans l'embellir ou l'enlaidir, sans mentir? Quant à se confier, peut-on le faire comme cela quand on vous le demande? Parler de ma vie, de moi, à un homme qui venait d'arriver? Non, ce n'était pas possible. » M. Boudier attendait que je parlasse, simulant une grande attention. Je dis bien « simulant » parce que, tout en fixant son regard sur moi, ses yeux, de temps à autre, se détournaient une seconde vers quelque objet de ma chambre.
« Vous vous lavez dans cette cuvette ?»«
Oui, monsieur. »«
Cela ne doit pas être commode.
Allons, racontez-moi votre vie, confiez-vous à moi. Vous avez en moi un ami, un frère. »
« Un frère ?»«
Oui, j'ai souffert aussi de la pauvreté. »«
Vous avez souffert de la pauvreté ?»«
Oui. » Je sentais qu'à ses yeux, il fallait que je m'en réjouisse. Pourtant, au fond de moi-même, il baissa dans mon estime. « Voulez-vous boire un peu de vin, monsieur ?» demandai-je, m'attendant à un refus poli. Je m'étais trompée. M. Boudier-Martel accepta. Avez-vous remarqué comment on se trompe souvent sur les gens? On est certain qu'ils diront une chose et ils vous répondent le contraire. Mais il ne faut pas que cela nous change dans notre opinion. M. Boudier n'avait pas dit non à cause de quelques raisons infiniment petites, inconnues de moi, mais tout son être présent refusait le vin que j'offrais. Cette fois, je versai lentement le vin pour que M. Boudier-Martel m'épargnât de le voir se pencher en buvant. Bien que le verre fût à moitié plein, il se pencha tout de même. « Alors, quand donc me raconterez-vous cette vie ? » dit-il en cherchant un endroit où poser le verre. « Si vous aviez vu comme il cherchait cet endroit, si vraiment il m'avait aimé, si vraiment il avait été attiré vers moi par quelques sentiments, il n'eût pas eu cet air emprunté, il eût posé le verre par terre. « Alors, cette vie ?»
« Oh, monsieur, elle n'est pas intéressante. »
Il se leva, vint à moi, me caressa les cheveux. La joie m'illumina, bien que je fusse partagée entre le désir qu'il cessa et qu'il continua. Qu'il cessa parce qu'il y a quelque chose de grotesque dans les effusions entre hommes. Qu'il continua parce que c'était une marque de si profonde amitié. « Grand enfant, grand enfant !» dit-il en s'éloignant de moi. « Je vais vous quitter, cher ami. »«
Vous allez partir ? » ?»« et moi qui avais cru que nous allions rester ensemble jusqu'à la nuit. Vous viendrez déjeuner avec moi quand vous en aurez envie. Je ne vous force pas. Vous êtes libre. Je ne vous donne pas de rendez-vous. Je respecte trop la liberté d'autrui. Ah, si M. Boudier savait comme on tient peu à sa liberté quand on est seul. Il prit son chapeau, n'attendit pas d'être sorti pour se couvrir. Je compris qu'au début, il avait fait un effort pour être délicat et que, fatigué maintenant, il se laissait aller. J'entrevis la grande solitude dans laquelle j'allais me trouver. Je me levai aussi. « Vous partez ?»« Oui, il faut que je rentre. » Je perdis la tête. « Monsieur, monsieur, ne partez pas !» Interloqué, M. Boudier-Martel fit un pas en arrière. Par prudence, sous le couvert de la stupéfaction, il ouvrit la porte comme sans y penser. « Ne partez pas, je vais être si seul sans vous. Si vous saviez comme je souffre quand je suis seul, restez, vous parlerez. Vous avez été si gentil pour moi. » Rassuré, M. Boudier lâcha le bouton de la porte. « Allons, mon enfant, calmez-vous. Vous savez bien que vous pouvez compter sur moi. » Je compris qu'il était impossible de le retenir. Je ne sais rien de plus angoissant que de sentir que, quoi que l'on fasse, on ne retiendra pas quelqu'un. Dans un dernier sursaut, je m'approchai de lui et, m'agenouillant gauchement, comme les gens qui ne vont pas à l'église, je balbutiai « Vous ne m'en voulez pas. J'ai agi un peu sans savoir. Vous qui me comprenez, excusez-moi. Vous pouvez compter sur moi pour tout. Je me sacrifierai. Restez, monsieur. » Je me relevai. Monsieur Boudier, qui avait encore reculé, était sur le palier. « Allons, mon ami, du courage. Je ne vous oublie pas. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Venez chez moi. » Et il partit, sans avoir même entendu que je lui avais dit que je me sacrifierais pour lui. Resté seul, je m'assis sur le lit. Il faisait encore grand jour. On jouait de la guitare dans une maison voisine. Quelquefois, c'était deux fois de suite le même air. Des oiseaux passaient dans le ciel bleu. Ils passaient si vite qu'ils semblaient suivre une ligne droite. Ils étaient noirs comme le sont les oiseaux à la fin de l'après-midi. Je me levai. Je pris mon chapeau. J'attendis un peu afin de ne pas rattraper M. Boudier. J'ouvris la porte, le palier était désert. Je sortis et, jusqu'à la nuit, je me promenai. Je me souviendrai toujours de cette journée radieuse qui fut pour moi une des plus tristes de ma vie. La veille, je m'étais endormi tard parce que, dans mon lit, j'avais songé à M. Boudier. Je suis si bon que, loin des gens, je ne vois plus leurs défauts. Bêtement, je m'étais imaginé que M. Boudier, dans son lit, pensait à moi lui aussi. Alors, j'avais regardé ma montre. J'avais décidé, à ce moment, de me rendre chez lui le lendemain pour lui dire qu'à 11h10, nos deux pensées s'étaient certainement rencontrées. Le matin, cette idée me parut ridicule. Mais comme il y avait déjà 3 jours que nous ne nous étions vus, je ne changeai pas ma décision. Il avait tant insisté pour que je vinsse déjeuner chez lui que je ne craignais pas d'abuser de sa bonté. Je m'habillai le mieux que je pus. Dans ma chambre, je me trouve toujours assez bien. Mais dès que je sors, dès que je suis dans la rue, mêlée à la foule, je sens combien je suis pauvrement mis. Ce n'est pas le contraste qui fait cela. Je passe inaperçu. C'est parce que je pense que l'on connaît la vie que je mène, que l'on se dit « il n'a que ce qu'il mérite ». Aussi suis-je craintif, sans confiance. J'ai tort, personne ne s'occupe de moi. À 11h30, je quitte ma chambre. D'habitude, je la quitte plus tôt. Mais ce jour-là, je voulais arriver chez M. Boudier, frais, sans poussière. Il faisait une chaleur accablante. Une voiture qui arrosait les rues me mouilla les pieds. Je marchais doucement, car bien que la visite que j'avais décidé de faire fût justifiée, j'étais ému. Midi sonnait partout quand j'arrivai devant la maison de M. Boudier. J'entrai tout de suite. Le corridor était moins frais que l'autre jour, toutes les portes étaient fermées. En été, les portes semblent ne jamais devoir s'ouvrir. L'ascenseur n'était pas là. Je montai l'escalier. La rampe était trop grosse pour qu'on pût la tenir. Arrivé devant la porte, j'ôtai mon chapeau, je le remis. L'émotion me faisait haleter. Je n'avais pas l'excuse d'avoir monté 6 étages. Il fallait sonner. Sans toucher à la minuterie, j'appuyai sur le bouton. J'attendis quelques secondes. « Est-ce que monsieur est là ?» demandai-je à la bonne, une main sur le mur, l'autre dans la poche. J'avais pris cette pause dès que j'avais vu la bonne, parce que je ne peux pas supporter les domestiques. Je voulais montrer à cette bonne que, bien que je fusse mal vêtue, j'étais au-dessus d'elle. Elle le sentit sans doute, et, soit par méchanceté, soit pour se venger, elle me demanda « Monsieur qui ?» Je faillis perdre le sang-froid que j'avais acquis avec tant de peine. « Votre maître, » dis-je avec insolence. Mais je regrettai tout de suite ce coup de tête. Je venais de m'apercevoir que j'étais, après tout, à la merci de cette femme. Qu'eussais-je pu faire si elle m'avait répondu « Mon maître, il n'est pas là. » Aussi, ajoutai-je immédiatement, « Vous me reconnaissez bien, je suis venu l'autre jour déjeuner. » Mais quoique je balbutiasse cela avec une humilité peureuse, je ne m'en réservais pas moins le plaisir de dire du mal d'elle tout à l'heure quand je causerai avec M. Boudier-Marielle. « Oui, il est là, entrez !» Je me découvris, bien qu'il me répugnât de le faire devant cette bonne. Elle était capable de croire que c'était pour elle que je le faisais. « Qui dois-je annoncer ?» J'hésitai un instant à répondre. « Annoncez le monsieur qui est venu déjeuner l'autre jour. »« Mais lequel ? Il en vient tous les jours. » Cette fois, il fallait que je dise mon nom. Elle allait se moquer, elle allait rire. Et puis, après tout, mon nom, c'est mon nom. Je n'ai pas à redouter de le dire. « Monsieur Bâton. »«
Bâton ?
Oui. »« Bien, attendez. » Je m'assis sur une de ces chaises de vestibule sur lesquelles on pose des paquets et des chapeaux, mais sur lesquelles ne s'assied que des gens comme moi. Une porte s'ouvrit. Monsieur Boudier apparut, sans col, en robe de chambre. Je me levai d'un bond. Immobile, il tendit ses mains vers moi. « C'est vous que je suis content de vous voir. Venez, entrez, je vais vous présenter à un ami, un homme comme vous. Entrez. « Entrez !»«
Un homme comme moi ?»«
Oui, entrez !» Je n'eus pas le temps de penser. J'avançai, ahuri, heureux, comme dans les rêves dont on se souvient. Soudain, je m'arrêtai net. Mon sang, au lieu de suivre son cours, me monta à la tête. Monsieur Boudier me visait de l'index. La bonne était quelque part derrière moi. On parlait. J'entendais des mots. La porte, doucement, toute seule, se rabattait vers le mur. Je venais de voir là, dans le fauteuil où je m'étais assis, un pauvre comme moi. Je n'ai pas besoin de les regarder longtemps. Tout de suite, je les reconnais. C'était certain, là, dans ce fauteuil, il y avait un pauvre. Mais entrez donc, mon ami. Je ne répondis pas. Je comprenais tout maintenant. Monsieur Boudier ne m'aimait pas. C'étaient les pauvres qu'il aimait. « Entrez donc, bâton. Mais qu'avez-vous ? » ?»« Non, non, je vais partir. Je suis malade. » Je marchais à reculons. Monsieur Boudier me suivait doucement. Je devinais qu'il n'osait pas s'approcher davantage de moi. On ne s'approche jamais des gens qui changent subitement d'attitude. « Mais restez, mon cher, restez, vous êtes chez vous, vous êtes mon ami. » Je reculai toujours, puis j'ouvris la porte. « Je reviendrai tout à l'heure, monsieur. J'ai mal, je suis malade, il faut que je parte. » Je sortis, laissant la porte ouverte. J'aurais pu la fermer, mais je n'eus pas le courage de le faire. Tant qu'elle était ouverte, il y avait encore quelque chose entre monsieur Boudier et moi. Il pouvait me suivre, me supplier de revenir. Alors, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Si j'ai laissé la porte ouverte, c'est aussi pour que ce fût lui qui la fermât, pour que ce fût lui qui brisât à tout jamais notre amitié, pour que j'eusse au moins dans ma solitude la raison de pouvoir souffrir à cause de l'incompréhension des autres. M. Boudier, pendant que je descendais, restait devant sa porte. Il semblait que le palier fût l'endroit extrême où il pût aller, que l'escalier fût un abîme. Il se penchait, m'appelait, n'osant mettre le pied sur la première marche. « Allons, bâton, venez! Qu'avez-vous ?» Moi, je m'en allais tout doucement. Quand je fus dans le corridor, je m'arrêtai. Était-ce parce que ma souffrance n'était pas si grande que je le pensais? Je me surpris aux aguets, écoutant ce qui se passait à l'entresol. La porte claqua. C'était fini. À la lumière éblouissante de la rue, il me sembla que tout ce qui venait d'arriver dans l'ombre de la maison était déjà perdu dans le passé. Je ne pleurais pas. On ne pleure jamais sur le moment. Mes nerfs étaient tendus à un tel point que, bien que je ne risse point, mon visage était contracté comme quand on rit. Les jours ont passé. J'aurais oublié depuis longtemps cette pénible histoire si je ne conservais pas l'impression que M. Boudier savait pourquoi j'étais partie. Il savait certainement que c'était un sentiment de basse jalousie qui m'avait poussé à fuir, que si, au lieu d'un pauvre, un riche s'était trouvé dans la salle à manger, je serais certainement restée. Il connaissait certainement toutes les pensées mesquines qui, alors, avaient traversé mon cerveau. Oui, sans aucun doute, il les connaissait toutes, parce que moi, à sa place, je les eusse devinées.